Salutations aux gens qui nous écoutent en Estrie via le 107.7, en Outaouais, le 104.7 et bien sûr dans le Grand Montréal au 98.5 FM. Et avec l'application Cogeco, vous pouvez nous écouter partout en vacances, au chalet, allez la télécharger. Vous allez voir beaucoup de plaisir encore pour la prochaine demi-heure avec notre vétérinaire Raymond Place qui va venir répondre à vos questions. On va parler de nourriture pour les animaux et je sais que déjà vous avez beaucoup, beaucoup de questions. Continuez à nous écrire. Vous pouvez le faire donc soit sur la page du 107.7 Estrie ou du 47 Outaouais ou du 98.5 FM. Ça va nous faire plaisir de lui poser toutes ces questions. Mais pour tout de suite, on reçoit l'historien et professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Laurent Turcot. Salut, Laurent.
Bonjour.
On va parler d'histoire et des jeunes parce que souvent, on a l'impression, et c'est une impression, que les jeunes sont peut-être moins intéressés à l'histoire. Et toi, tu dis qu'avec les jeux vidéo, on pourrait aller les chercher et les intéresser à notre histoire.
Bien, c'est un grand classique de dire que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas intéressés par l'histoire, qu'ils veulent rien savoir et que pour eux, tout ce qu'ils veulent, c'est se mettre devant un écran, regarder des jeux vidéo, jouer à des jeux vidéo pendant des heures et des heures et que ça rend compte. C'est de l'opium du peuple, de l'encasernement des esprits. C'est plus compliqué que ça. Mais surtout, c'est qu'on peut se servir des jeux vidéo pour leur faire comprendre le médium qui est le médium historique. Et moi, ce sur quoi j'ai travaillé il y a quelques années, j'avais travaillé sur Assassin's Creed Unity, qui est un jeu, justement, ça se passe pendant la Révolution française, en 1789. Là, il y a des gens qui vont se dire, ah oui, là, ils ont guillotiné des gens, il y a eu beaucoup de sang, des meurtres.
Il y a de la violence.
Exactement.
C'est
donc, c'est pas super nécessairement pour aborder l'histoire. Et pourtant, c'est que j'ai été engagé par Ubisoft pour développer l'ordinaire de la vie quotidienne. Moi, je ne suis pas spécialiste d'histoire politique, je suis spécialiste de la vie culturelle, de la politesse, de la police, des rapports à l'autre, de comment ça se passait dans les toilettes, comment on vomissait, comment on se tenait main par la main, des détails. Oh oui, vous avez bien entendu, parce qu'on ne vomissait pas de la même manière en 1789 qu'à aujourd'hui. Et c'est des détails qui, parfois, permettent de réduire la distance entre un 350 ans du passé et aujourd'hui. On se dit, ben, finalement, les gens d'il y a 250 ans ou de la Révolution française, ben, c'est pas si loin de moi. Donc, j'ai travaillé là-dessus et j'ai dit à Ubisoft, ça serait bien à un moment donné qu'on utilise le jeu pour en faire un modèle dans les écoles, qu'on utilise ce côté immersif, un peu comme Google Street View. Google Street View, vous le voyez, vous mettez le petit bonhomme jaune, là, vous le déposez sur la carte, puis là, vous promenez dans la ville pour voir à quoi ça ressemble.
Puis là, on apprend plein de choses, puis on voit les trucs, puis on a l'impression d'être sur place. Là.
Exactement, mais sauf que c'est des images fixes, ça ne bouge pas. Alors que, imaginez un peu, vous êtes dans une classe, ici au Québec, c'est ce que je fais à Trois-Rivières, et j'arrive avec ma manette, et là, je dis, bon, ben gang, aujourd'hui, on va se promener dans Paris en 1789, on va aller faire un tour du côté du Quartier Latin. Donc, on se promène pas très loin de la Sorbonne, mais là, c'est pas un itinéraire qui est fixé avec des images comme Google Street View. Vous avez de la foule qui bouge, qui chante, qui crie, de la police, des mendiants. Tout ça arrive, et on a l'impression qu'on a presque inventé la machine à voyager dans le temps. Et moi, je peux faire un guide. Donc, je suis le guide de mes étudiants dans le passé. Je leur raconte un peu ce qu'ils voient. Là, les gens vont dire, ben non, ça n'existe pas. Ouais. On ne peut pas faire ça. Vous irez voir. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle L'Histoire nous le dira. Et j'ai une capsule qui s'appelle Promenade dans le Paris d'Assassin's Creed. Donc, je me promène. Ubisoft m'a fourni des images et j'explique le rapport entre l'histoire connue et celle qu'on peut voir dans Assassin's Creed Unity. Et je vous fais la promenade. Et c'est accessible, c'est gratuit pour tous. Et j'ai mis ça carrément sur Internet en disant, bon, ben, tous ceux qui veulent connaître Paris, vous l'avez. Et ceux qui pensent que les jeux vidéo ne servent à rien, ça ne fait que rendre des enfants plus cons, vous vous mettez le doigt dans l'œil profondément.
Et c'est le commentaire qu'on reçoit, et d'ailleurs je l'ai reçu sur les réseaux sociaux, comment on peut inciter les jeunes à apprendre l'histoire avec des jeux vidéo quand déjà ils passent beaucoup de temps avec les réseaux sociaux, quand déjà il y a beaucoup de jeunes qui ont une cyberdépendance, ça faut en parler aussi, qui arrivent à la maison, vont que jouer à des jeux. Mais comment, justement, on est capable de dire, bon, ben pour l'apprentissage à l'école, le jeu vidéo va être bénéfique?
Bien, le grand problème qu'on a, c'est qu'on a deux mondes séparés. On est tous des générations. Moi, je suis une génération, par exemple, Super Nintendo ou Genesis. Ouais. Puis on a joué beaucoup
à ça. On a le même âge,
je pense aussi. Mais le problème aujourd'hui, c'est que cette génération-là est née avec les écrans. Ça a toujours été là. Donc, pour eux, ils ne voient pas la différence. Et quand ils arrivent dans une classe où le professeur parle pendant 3 heures en baissant les lumières, en mettant un PowerPoint, ça devient un somnifère.
Il devient power plate, comme
tu dis. Exactement. Je disais un power somnifère dans un TEDx que je faisais. Mais le problème qu'on a, justement, c'est que plutôt que de dire « Les jeunes, venez dans notre monde, vous allez voir, il est captivant », peut-être que c'est le chemin inverse qu'il faut faire. Et moi, je me suis dit, si je ne comprends pas ce qui les intéresse et ce qui est leur méthode de compréhension du monde, comment je peux leur parler? Si ce que je veux faire, c'est juste faire de la télé puis pas être sur YouTube, comment je vais leur parler? Si ce que je fais, tout simplement, c'est de leur faire des cours magistraux politiques, théoriques, je vais les perdre. Donc, il existe des jeux vidéo. Il existe des jeux vidéo où on utilise l'histoire. Donc, de passer par ça pour dire, écoutez, gang, là, tout ce que vous avez déterminé, tout ce que vous avez vu, ça a réellement existé. Puis, je vais me servir de ça pour vous passer de la matière. Puis, tranquillement, je vais vous amener ailleurs. Donc, c'est une manière de dire, je légitime vos pratiques sociales de divertissement, mais c'est peut-être pas juste du divertissement, puis on va aller plus loin. On dit ça, mais nos professeurs le faisaient, là. Moi, je regardais quand j'étais à l'école, à Québec, il y a des professeurs, quand ils arrivaient, c'était pas un cours d'histoire qu'ils nous donnaient, c'était du théâtre.
Ouais, c'est un spectacle.
C'était un spectacle, puis la parole nous portait. On était cette génération qui avions encore ce rapport. Je dis ça parce que vous regardiez des scènes de cinéma, ça pouvait durer 3, 4, 5, 10 minutes. Aujourd'hui, les plans de cinéma, c'est 2 secondes, schlac, on change. 2 secondes, schlac, on change. On est dans...
Ça va vite.
C'est extrêmement rapide. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une manière pour les professeurs de s'adapter? Il y en a plusieurs qui le font au Québec. Je pense par exemple à Marc-André Etier, qui est à l'Université de Montréal, qui lui est en train de développer justement toute cette structure des jeux ludo-éducatifs qui peut servir carrément aux étudiants. Puis au Québec, on est des précurseurs. Donc de là à dire que ça sert à rien, on va dans le mur avec ça, ben c'est déjà en place. Et il y a plusieurs étudiants qui disent, moi, la raison pour laquelle je me suis intéressé à l'histoire, c'est pas parce que j'ai vu un film, pas une série, c'est parce que j'ai joué à un jeu vidéo. Puis c'est là que ça devient intéressant. Et là, c'est les mots qui me frappent. Ils disent, je veux en savoir plus.
Mais c'est là aussi que c'est une partie de ta paye. Oui. Parce que le travail d'un professeur, c'est de transmettre le savoir. Et le savoir, parfois, va se perdre parce qu'évidemment, on est à l'école, on écoute, on s'en rappelle pas trop si le professeur nous a pas marqué. Et vous, vous êtes devant la classe, devant 30, 35, 40, tout dépendamment du nombre de personnes que vous avez dans votre cours, que ce soit au secondaire, cégep ou université. Et vous êtes, en fait, le comédien, vous devez, et avec des moyens technologiques maintenant, je pense qu'il faut effectivement les utiliser, mais ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs professeurs qui, pour eux, ben, que ce soit les ordinateurs ou que ce soit les jeux vidéo ou autres jeux, ben, il reste que pour eux, ce n'est peut-être pas donné non plus de faire ça.
C'est déstabilisant, c'est vrai, parce qu'on arrive dans un monde où on se dit, on ne le comprend plus. On a toujours une technologie où est-ce qu'on se dit, là ça ne va plus, moi j'arrête. Moi, par exemple, ça a été Snapchat. Quand Snapchat est sorti, là, je me suis dit, ça, je ne comprends pas.
Je ne donnerai pas des cours avec Snapchat.
Moi non plus. Mais pourtant, je vois tous les étudiants qui sont là-dessus. Donc, je me dis, si je veux comprendre leur monde, il faut quand même que je l'intègre un peu puis qu'ils m'en apprennent. Et c'est aussi une forme de modestie intellectuelle de dire, je ne comprends pas toutes leurs références à eux, mais je peux quand même les étudier et m'en servir. Ce qui ne veut pas dire, je vais juste prendre les jeux vidéo. Et là, les gens se tromperaient en disant, il va juste prendre des jeux vidéo puis il va les faire jouer pendant 3 heures. Pas du tout, c'est une porte d'entrée. Quand vous entrez, vous faites une conférence, vous faites une espèce de phrase d'accroche en disant, bon, ben vous savez, aujourd'hui, on va dans le mur, le climat, c'est de la marde, etc., etc. Vous faites une phrase d'accroche. Puis avec la phrase d'accroche, vous amenez votre public. C'est une formule rhétorique. Donc, on intègre le jeu vidéo dans la rhétorique, mais aussi toutes les nouvelles technologies. Puis là, en fait, je dis nouvelles technologies, mais je me déteste parce qu'on ne devrait plus dire nouvelles technologies. C'est
ancré en nous.
C'est déjà là.
C'est déjà là.
Quand je disais tout à l'heure, les jeux vidéo, il y en a qui disent, encore les jeux vidéo, c'est tout neuf. Le premier jeu vidéo là, qui existait, c'est 1950. Donc, c'est de l'époque de vos grands-parents. Donc, les jeux vidéo sont là depuis bientôt plus de 100 ans. Donc, on peut considérer que c'est là puis c'est déjà intégré. Donc, on en est rendu à comment se servir de ces jeux vidéo pour faire apprendre. Je dis ça, mais ça existe depuis très longtemps. Vous connaissez sûrement Carmen Sandiego?
Oui.
Très connu. Ils en ont même fait un spin-off sur Netflix. Et là, les enfants apprennent plein de choses. Ils regardent Vermeer, ils vont à telle ville.
Où est dans le monde Carmen Sandiego?
Pour apprendre la géographie. Oui. Donc, on peut carrément mixer les éléments de culture populaire divertissant et l'éducation. Et c'est ce que je tente de faire. Moi, je suis obsédé, dans le bon sens du terme, par l'idée d'échapper une génération. Je pense qu'en ce moment, il y a un fossé qui crée, il y a une transformation technologique, mais l'erreur serait de dire, si vous ne vous comprenez pas, c'est votre problème, les jeunes, venez dans notre monde. Là, on se trompe. Et certains de mes collègues ne font cette erreur, mais pas volontairement, parce qu'ils reproduisent le modèle qu'ils ont connu, ce qui est normal. Sauf que quand on voit les disparités, quand on voit aussi les algorithmes qui sont créés sur Facebook, la difficulté de rejoindre les gens, gens, de créer du contenu. Quand on voit des influenceurs qui n'ont rien à dire, qui sont plus populaires que des gens qui devraient avoir le crachoir, quand on voit qu'on demande à des humoristes de développer sur de la politique alors qu'on a des politologues dans les universités, on est en train de rentrer dans le mur et moi, je me dis, c'est de ma faute. Mmh. Je me sens responsable de ça. Et comment je peux agir? Bien, en investissant l'espace public, pas juste ici à la radio, mais par les médiums qui sont les leurs.
Et comme YouTube, notamment, la chaîne YouTube que tu as développée. Puis il n'y en a pas beaucoup au Québec, on s'entend. Là, j'ai l'impression que tu es pas mal le seul à offrir. Oui. Mais il y a quelques scientifiques aussi, si on va dans d'autres domaines, mais oui. Au niveau du contenu, là, à proprement parler. Puis on va continuer à en parler avec le passionné Laurent Turcot. C'est comme ça que je vais maintenant définir. Historien et professeur de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Comment intéresser les jeunes à l'histoire avec les jeux vidéo? Et on dit intéresser à l'histoire, mais c'est à différentes matière et on le voit beaucoup maintenant dans les écoles et j'y suis allée d'ailleurs dans quelques écoles primaires où on apprenait le jeu Minecraft. On parlait d'Assassin's Creed tout à l'heure avec Laurent Turcot. Il y a Minecraft également. Les jeunes y jouent. Il y a de la programmation également pour apprendre les mathématiques et aussi le français. C'est-à-dire que le jeune, quand il apprend la programmation informatique, va devoir calculer, bon, pour que mon petit bonhomme avance, je dois mettre 3 blocs. Donc, 3 blocs plus 3 blocs, qu'est-ce que ça fait 3 fois 3? Donc, on arrive à un calcul et c'est comme ça que son bonhomme va avancer. Et finalement, le jeune se rend compte que, ben oui, il a appris quelques notions de mathématiques. Ça se fait facilement et c'est justement comme ça peut-être que les jeux vidéo vont arriver. Et j'ai vu d'ailleurs plusieurs articles, notamment à Québec. Il y a un professeur qui, lui, utilise aussi le jeu Minecraft, qui propose aux élèves de 3e secondaire de reconstituer une scène de la guerre de la conquête aussi. Donc, dans l'histoire, dans la vie de tous les jours, je pense que les jeux vidéo ont pris une place. Mais Laurent Turcot, moi, j'ai reçu des courriels de gens qui me disent « Oui, mais est-ce que ça ne va pas dénaturer un peu le propos? »
Ça peut pas dénaturer le propos parce que c'est toujours l'enseignant qui contrôle. Moi, quand je fais l'organisation d'un cours, le corps, de ce que je vais donner, je le sais. J'ai une thèse dans le cours. Et simplement, tu te dis, par quel moyen je peux accéder pour faire comprendre ça? Soit on le répète 15 fois, soit on dit simplement, la conquête, ça ne s'est pas passé en 20 minutes, c'est pas comme ça que... On peut le répéter 50 fois, mais on n'arrivera pas. Mais si, par exemple, on fait une mise en scène et on dit « OK, gang, on va faire un jeu de rôle. » Un jeu de rôle, on divise d'un côté la moitié de la classe est français, l'autre moitié est britannique, et vous vous affrontez par un système de jeu. Là, tout d'un coup, on met d'autres formes du cerveau en jeu et la ludification permet l'apprentissage parce qu'il s'implique. Et là, on va dire aux étudiants « Bon, ben oui, mais toi, t'es le général Montcalm. Fais-moi une petite recherche quand même parce que Montcalm n'aurait pas pris les Autochtones pour... » Là, je fais une mise en scène, mais... Voyez un peu comment on peut utiliser les formes ludiques pour jouer avec l'histoire. Jouer avec l'histoire, mais le but est toujours le même. Qu'est-ce qu'ils vont retenir? Et l'enseignant reste quand même l'autorité hiérarchique qui donne le savoir. Donc, vous en faites pas. Si vous pensez que tout devient jeu vidéo, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. On est peut-être dans la société du spectacle, mais on n'est pas dans le spectacle de l'éducation.
Et quand arrivent les examens? Parce qu'évidemment, il y a des examens, pas le choix. Là, t'sais, bon, je me rappelle de mon examen d'histoire au secondaire. À l'université, c'est la même chose aussi. On a des travaux à remettre. Là, on sort un peu du cadre du jeu vidéo. Est-ce que tu as remarqué que l'apprentissage avait été bien fait?
Ben en fait, moi, je suis un très mauvais enseignant sur les examens.
Tu fais pas d'examen,
non,
pas de
non, j'en fais des examens, mais je leur donne les questions avant. Et je leur dis, je sais que vous connaissez toutes les réponses. Le problème, c'est que moi, je donne des questions extrêmement larges. Et ils ont, par exemple, 45 heures de matière puis il faut qu'ils synthétisent en 3 pages. Donc, je les force en quelque sorte à utiliser leur esprit de synthèse. Et je leur dis, vous allez avoir trop d'informations. Le but de votre travail, c'est de choisir les bonnes. Vous le savez, là, on est ensemble en ce moment, on pourrait parler pendant des heures, sauf qu'il faut que je choisisse les bonnes phrases, les bons exemples. Donc, c'est ça apprendre aussi à l'université. C'est pas juste apprendre des connaissances. Oui, certes, c'est fondamental. Le contenu, je suis un des premiers à dire, si vous n'avez pas de contenu, vous allez dans le mur solide. Si vous pensez que l'université ne sert qu'à faire des gens qui vont œuvrer dans l'espace public pour du travail, c'est faux. Ça vous fait une tête. Et nous, ce qu'on fait en sciences humaines, c'est qu'on apprend aux étudiants arriver dans n'importe quel métier, puis on dit, t'as 5 minutes pour résumer, par exemple, des tonnes et des tonnes de recherches, schlac, tu vas être capable de le faire. Et c'est ça qu'on développe. Et c'est ça que moi, je veux développer dans mes examens. Pas du par cœur. Moi, du par cœur, je me fais planter en premier.
C'est encore ça qu'on a au secondaire. Rappelez-vous, à l'époque, puis là, il faut que tu me dises, c'est le nom du personnage. Puis là, je voyais ma belle-fille là, apprendre, puis lui, ça lui rentrait pas dans la tête nécessairement. Donc, elle avait des notes pas très agréables en histoire. Puis là, ben, c'est le découragement. Puis là, l'histoire, c'est plate.
Ouais, mais ça, c'est le... Je peux raconter mon histoire aussi. J'étais à l'école secondaire Les Compagnons de quartier, à Québec, et mon professeur en histoire, que je nommerai pas, je pense qu'il est mort depuis, grand bien lui en face. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des acétates qu'il avait déroulés sur le projecteur et il déroulait ces acétates et il fallait recopier point par point ses notes pour mon cours d'histoire du 19e au 20e siècle. Je voulais mourir.
C'est plate longtemps.
Sauf que moi, ça m'a appris, voici ce que je ne veux pas faire. Et des fois, on se dit, avoir des gens qui sont pas bons, ça sert à se définir encore plus. Parce qu'on dit, moi, je veux pas faire ça, je veux me trouver ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'altérité signifiante. Donc, tout ça pour dire, le par cœur, oui, c'est sûr, on va toujours en avoir un peu. On peut se planter sur quelques dates, mais au final, ce qu'il faut, c'est une compréhension des choses. Parce que dans 5, dans 10 ans, qu'est-ce que vous allez vous rappeler de votre cours d'histoire du Québec? Des fois, très peu de choses. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens sont intéressés par l'histoire. Ce qu'on disait tout à l'heure en entrée d'émission, c'est que les jeunes ne s'intéressent pas à l'histoire. Ça, je considère que c'est carrément faux. Juste pour vous donner des statistiques, moi, avec ma chaîne YouTube, il y a 46 000 abonnés et 60 % des abonnés ont entre 14 et 35 ans.
Il y a un intérêt.
Il y a un grand intérêt. Puis ce n'est pas des trucs qui sont des fois faciles. Je fais l'histoire de la Révolution française, 14 tomes en 15 minutes, puis je rentre une journée complète de la Révolution française, ultra détaillée, ultra précise, des cadres théoriques. Ben ça marche. Ça veut dire, c'est une des choses à laquelle je crois fondamentalement, les gens, si on leur donne du contenu, si on dit c'est complexe, mais c'est pas grave, vous allez comprendre, ben ils comprennent. Donc arrêtez de croire qu'on veut vous donner du pré-mâché, pas trop long, pas trop difficile. Puis ça, c'est l'autre mythe. On dit souvent que il faut des petites vidéos de 2 minutes. Moi, les petites vidéos de 2 minutes, ils ne marchent pas. Quand j'en fais de 8 minutes, on me dit, ben là, tu devrais en faire plus. Donc, je me rends à 20 minutes. Oh, tu devrais en faire plus. Je me rends à 30 minutes, puis ça ne suffit pas encore. Il y a un appétit extrêmement fort pour l'histoire.
Mais c'est dû à quoi cet appétit-là? Parce que, de ce que je me souviens, en tout cas de mes cours d'histoire, moi, j'adorais ça, mais il y en avait plusieurs, là, puis je ne peux pas dire que c'est ce qui est le plus populaire généralement chez bien des jeunes, mais on sent l'intérêt, mais cet appétit-là, justement, d'en savoir plus, c'est parce qu'on a. On n'en a pas su assez.
Peut-être que ce n'est pas bien présenté aussi, parce qu'il y a une mise en récit. Vous, quand vous racontez une histoire, une anecdote, par exemple, je me suis pété le pied en débarquant de mon auto, on peut juste raconter ça, mais on peut aussi l'enrober, mettre plein de contexte, mettre des inflexions de voix. Tout ça, là, c'est ce qu'on appelle la mise en récit. Si on est capable de le faire, on capte notre auditoire. Si on est capable d'utiliser les silences, l'accélération de la parole, ça marche. Sauf que ce n'est pas ça qu'on apprend à nos étudiants en ce moment qui sont bac en enseignement secondaire. Ce qu'on leur apprend, c'est comment apprendre puis comment enseigner. Peut-être qu'on est en train de le rater, ça. Puis peut-être ce qu'il faudrait aussi, c'est plus de contenu pour nos étudiants, parce que plus t'en connais, plus t'es passionné, plus t'as envie d'en donner. Mm-hmm. Et peut-être que, justement, nos programmes sont mal faits et c'est pas pour rien qu'on dit les gens sont pas intéressés par l'histoire, mais c'est normal, il y a pas de cours en histoire, c'est pas bien fait, on adapte mal les choses, alors que quand on les laisse aller dans une liberté totale, ils s'abonnent à des chaînes YouTube, ils jouent à des jeux vidéo d'histoire, ils vont même dans des musées, ce qui est quand même assez étonnant pour des jeunes. Donc, il y a un intérêt. Puis quand on regarde aussi pour les gens plus âgés, il y a des romans historiques, des séries historiques. Ça marche, l'histoire au Québec. Les gens disent souvent, oh, le « je me souviens », ça veut dire « je m'en rappelle plus ». Arrêtez de dire ça, c'est pas vrai. Les gens sont passionnés d'histoire au Québec. Ils veulent le savoir. Il y a des pages dans les journaux, dans la radio, partout. Donc, il faut vraiment redonner la place à l'histoire. Pas nécessairement parce qu'on se dit on fait un fétichisme du passé, pas parce qu'on dit que
qu'on
ça va...
Qu'on veut vivre dans le passé,
non,
ouais,
pas ça, du tout. Il y en a qui disent, ah, pour connaître son passé, on va connaître notre futur. Arrêtez de dire ça, ça veut rien dire, ça. Au contraire, ça nous permet d'avoir une tête plus riche, puis aussi de voir que dans le passé, tout n'est jamais blanc ou noir, c'est tout gris, comme aujourd'hui.
D'être capable de se faire des idées sur la société d'aujourd'hui aussi.
Ça aide, c'est sûr que ça aide. Ouais. C'est toujours c'est pas un prérequis, mais c'est assez nécessaire. Quand on voit certains hommes politiques et certaines femmes politiques qui enfoncent des portes ouvertes à grands coups de pied, on leur dit, gang, faites votre travail. Ça veut dire, si vous connaissiez un peu plus votre passé, peut-être que ça vous éviterait de dire des choses qu'on a déjà dit il y a 50 ans puis qui ont mené à rien. Par exemple, la ligne bleue. Ça, c'est très drôle. On n'arrête pas de dire que la ligne bleue, ça va se faire, alors que cet infomane qui avait sorti dit « ça fait 20 ans qu'ils nous disent que ça s'en vient ». Donc, c'est pas parce qu'on dit une vérité 15 fois qu'elle finit par être vraie.
On va prendre un appel. Pierre est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. Écoute, je retourne à l'école. Moi, j'ai 52 ans, mais je retourne à l'école. Tabarnouche, je peux-tu juste dire, il y a l'air cool comme prof, puis bravo, puis j'espère que vous en tout cas, qu'il y en a beaucoup comme vous.
Ben, les cours sont gratuits à l'université, vous pouvez venir quand vous voulez.
Oui, ben j'ai eu de la misère à terminer mon secondaire, fait que je me vois mal dans l'université.
Mais vous savez que passé 21 ans, vous pouvez venir comme auditeur libre dans toutes les universités au Québec et c'est gratuit. C'est une des formules qu'on dit pas assez, c'est l'éducation permanente.
Mon Dieu, ben vous me l'apprenez.
Oui, mais Pierre, justement, est-ce que vous aimiez l'histoire quand vous étiez jeune?
Ben moi, j'aimais ça. Écoutez, j'avais 58 ou 59 % ça prenait 50 dans mon temps. Aïe.
Mais ça fait mal.
J'avais reçu un méritance. Je comprenais pas d'avoir reçu un méritance avec une note si faible. Mon intérêt était là. Ah. Mais pour la mémoire de date et de si, mais j'aimais ça. Ouais. Ça, j'aimais ça.
Mais quand l'intérêt est là, justement, puis vous pensez quoi, vous, Pierre, justement, avec les jeunes et les jeux vidéo, d'enseigner l'histoire ou autre matière avec les jeux vidéo?
Bien, au départ, j'étais comme réticent, mais à l'écouter monsieur parler, bien, je trouve ça intéressant, sincèrement.
Donc, peut-être que vous, ça vous aurait peut-être encore plus... Vous aviez l'intérêt, donc ça vous aurait peut-être aidé, justement, à avoir une bonne note. Merci beaucoup, Pierre.
J'aimais ça, mais je ne retenais pas. C'est comme je regarde un film. Moi, je vais le regarder 6 fois, puis c'est comme la première fois que je le vois.
C'est d'utiliser d'autres moyens. Merci beaucoup, Pierre. Puis peut-être on pourra vous voir dans une classe comme auditeur libre, dans un cours de Laurent Turcot, pourquoi pas. Laurent Turcot, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et on se rend compte à quel point, quand on est passionné aussi par un sujet, ça attire les gens, ça attire les jeunes aussi. Je rappelle que la chaîne YouTube, hein, si vous voulez en savoir plus, ça aussi, c'est gratuit. L'histoire nous le dira. On peut aller d'ailleurs sur Facebook pour la retrouver, sur YouTube également, sans problème. Et on peut te retrouver aussi à Trois-Rivières pour ceux qui veulent aller s'inscrire.
Toujours.
À l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup.
Merci à vous.
11h30, on s'arrête quelques instants et au retour, on parle avec notre vétérinaire Raymond Place.